Les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Le journal intime présente les faits bruts, les réflexions du jour. Les mémoires sont, par définition, marquées par le recul sur l'événement, les heurts et malheurs de son auteur. Journal intime, mémoire, les deux exercices ont leur intérêt propre. Bien sûr, tout dépend de la qualité de l'écriture. C'est principalement de Benjamin Constant qu'il était question dans l'émission « Le Club des liseurs » et ce, par la parole et sous le regard de Roger Nimier. Mais d'autres grands diaristes ou mémorialistes étaient cités et analysés, dont Stendhal et Casanova. Réflexion sur le naturel ou non du journal, est-ce la première fois que l'on voit un homme sans faux col? La possibilité d'aller loin dans le cynisme, se parler à soi-même, ne pas être larmoyant mais ne pas être sec? Le journal comme brouillon d'un roman à venir? Le Club des liseurs, le journal intime, première diffusion sur la chaîne nationale le 7 février 1954.
Voici le Club des liseurs, une émission de Marcel Arlan, Marcel Bizio et Jacques Brenner. Aujourd'hui, le journal intime, avec la participation de Roger Nimier.
Roger Nimier, vous avez bien voulu venir, vous avez bien voulu accepter d'être aujourd'hui notre invité. Quel est le thème que vous avez choisi? Quelle est la page qui vous a plu et de laquelle nous allons partir?
Je voudrais lire le début des journaux intimes de Benjamin Constant, tels qu'ils ont été publiés récemment, et qui concernent ses relations avec Germaine de Staël d'une part, et d'autre part, une femme qui allait devenir sa femme. Amélie dans le récit, tel qu'il l'appelle Amélie, et elle est Charlotte en réalité.
C'est la seconde femme de
Constant.
Ah oui,
oui. Il avait été marié une première fois, il avait divorcé.
Eh bien, vous voulez commencer?
Très bien. Alors, nous sommes le 6 janvier 1803, ne l'oublions pas. Je me sens dans une de ces crises du cœur et d'imagination qui ont plus d'une fois bouleversé toute mon existence, brisé toutes mes relations, qui m'ont transporté dans un monde nouveau où il ne me restait de celui que j'avais quitté que quelques souvenirs assez effacés, mais plutôt tristes, des ennemis qui nécessitaient des explications fatigantes, mais en général un vif sentiment de délivrance et la conviction que j'avais bien fait en changeant de plan de vie. Il ne faut pas agir légèrement toutefois. J'ai 35 ans passés, je ne suis plus riche d'avenir. La jeunesse n'est plus là pour excuser des inconséquences, et surtout je n'ai plus en moi cette force défensive et cet amour de moi-même qui m'aidait à me justifier et à me faire connaître. Mon sang circule aujourd'hui avec assez de vivacité, mais assez d'insouciance sur mon sort, beaucoup de défiance des autres, ont rendu un découragement plus apathique que douloureux l'état habituel de mon âme. La peur de l'ennui est mon impulsion dominante, et mon grand danger en changeant de situation, c'est précisément l'ennui. Ma situation actuelle est évidemment fausse, mais elle a ses côtés brillants. Si je supporte tous les inconvénients d'une liaison qui m'entraîne au milieu des orages et où je ne remplis qu'un rôle secondaire, j'y trouve plus de liens apparents que je ne pourrais en trouver ailleurs. Le très grand mouvement du monde m'emporte sans que je sois obligé de rien faire pour cela. Je puis me jeter en arrière sans cesser d'aller en avant et je suis au moins dispensé de ramer. Que je rompe ces liens, tout change. J'aurai bien moins la peine de résister au tourbillon qui m'entraîne, la fatigue de me trouver englobé dans une célébrité autre que celle qui me convient, la solidarité de beaucoup d'imprudence et de cette espèce de défaveur dont une femme célèbre s'entoure et qui retombe sur son amant. Mais j'aurai de moins beaucoup de liens en France, où je voudrais vivre, et je perdrai la jouissance et de cet esprit rapide et étendu, et de ce cœur excellent au fond, et de ce dévouement sans exemple dont aujourd'hui je puis disposer. Cependant, voyons l'avenir. Depuis longtemps, je n'ai plus d'amour pour Germaine. Une grande mobilité de caractère m'aide à suppléer à l'amour sans mauvaise foi. De grands rapports d'esprit nous rapprochaient l'un de l'autre, mais cela peut-il durer?
Voilà la première page.
Et peut-être ce sont les premières vraies confessions qu'on ait jamais lues. Non. Il me semble que si on les compare, nous allons revenir peut-être bientôt à Rousseau.
Oui.
Ça me paraît tellement plus net, pleinement plus simple. Les questions pratiques sont tellement mélangées aux questions de cœur, et c'est tellement vrai à chaque instant chez Constant,
oui,
que ça dépasse peut-être la stratégie amoureuse pour devenir l'aveu, simplement.
pour
là, c'est un homme, qui vraiment mélange les parle aussi nettement de sa situation financière et de sa situation dans le monde que sa situation intérieure. Or, qu'est-ce que nous voyons de notre part? Nous voyons avant lui Rousseau, qui évidemment parle beaucoup de son cœur, mais feint toujours, malgré tout, de le placer bien avant la situation mondaine. Et nous verrons après Stendhal, qui avoue beaucoup de choses, mais qui est un peu un fanfaron de vice. Il me semble que chez Constant, nous avons quelque chose d'autre, de beaucoup plus naturel, de beaucoup plus...
Mais Constant vous paraît moins joué. Enfin,
il me paraît pas joué, ce grand joueur, justement, ne me paraît plus joué quand il écrit son journal.
Oui, mais vous croyez qu'avant lui, on ne trouverait pas, je ne sais pas, voyons, dans les auteurs de mémoire du XVIIIe siècle, enfin...
Ils ont du feu, ils ont du naturel, mais ils ne sont pas le naturel, peut-être.
Ils ne sont pas le naturel.
Enfin, vous me direz que ce naturel devient bien scolaire dès qu'on l'explique de cette façon.
Oui.
Mais je veux dire qu'ils ont des moments de liberté, si vous voulez. Ils ont une très grande liberté, tandis que là, on a l'impression de quelque chose de tout à fait dépouillé.
Oui.
Et ce dépouillement ne conduit pas à une pureté très grande, bien sûr, puisque, encore une fois, des questions pratiques interviennent souvent chez Constant. Mmh.
Croyez-vous que chez un homme comme Casanova, on ne trouverait pas cette analyse et cette naturelle dans...
Oui, seulement, alors, oui, c'est ça. On trouverait probablement, mais on n'aurait pas la chance d'avoir aussi le cœur de Constant par derrière.
Oui. Croyez-vous que dans certaines lettres, alors, car on pourrait prendre aussi des lettres de femmes, des lettres passionnées, elles peuvent remplacer la confession.
Ah, oui, mais nous, on sait très bien. Oui, mais les femmes, là, vous n'avez pas le droit de parler des femmes, parce qu'on sait bien qu'elles ont
un impact. Pas besoin de parler des
femmes. Elles ont un impact avec la nature, et tout le naturel leur va de droit.
Oui.
Alors ça, c'est une question qui est réglée. Mais pour un pauvre homme, un malheureux pauvre homme, toujours trop engoncé dans son faux col et son parapluie, eh bien, nous voyons là, pour la première fois, un homme sans faux col, peut-être. La première fois, c'est beaucoup dire, mais avec assez de durée, tout de même.
Oui, mais là, vous lisez une page de journal, et c'est quelqu'un qui fait le point sur sa situation et qui ne s'adresse absolument à personne.
C'est ça, mais alors voilà peut-être la chose importante aussi, c'est qu'il ne s'adresse à personne, alors que Rousseau, manifestement, s'adressait à tout le monde en écrivant. Et les gens qui écrivaient leur mémoire autrefois s'adressaient aussi toujours à un grand public. C'était plus pareil. C'est peut-être en effet la naissance des journaux intimes. Il y en a eu avant, mais enfin, on n'écrit plus ses mémoires pour se justifier, comme on avait fait si longtemps. On les écrit pour soi, pour faire le point. Et puis cette étape sera dépassée, on écrira son journal comme Gide également pour tout le monde. Et ça deviendra le petit Parisien.
C'est un peu exagéré, excessif.
Le petit Parisien des lettrés.
Oui. Vous n'êtes pas arrêté.
Je ne suis pas arrivé à la fin. Et je crois que la fin montrera peut-être mieux
si vous voulez
le caractère, enfin la précision de certaines révélations de Constant sur ses relations avec Germain.
C'est en 1803.
Oui. Mon cœur, mon imagination et surtout mes sens ont besoin d'amour. J'ai besoin d'un être que je protège, qui me suive, que je tienne dans mes bras, dont le bonheur soit aisé à faire, dont l'existence inoffensive se plie sans effort à la mienne. J'ai besoin d'une femme, en un mot, presque inaperçue, sinon pour mes affections domestiques, et qui soit une partie douce, intime et légère de ma vie. Mais cette femme, où la trouver? La médiocrité ne garantit rien de tout cela. L'esprit menace du contraire. Continuons pourtant l'examen. Germaine a besoin du langage de l'amour, de ce langage qu'il m'est chaque jour plus impossible de lui parler. Nous nous brouillerons, nous nous séparerons infailliblement. Plus notre liaison dure, plus à la fin nous nous trouverons vieux, isolés, mécontents de nous et sans ressources auprès des autres. Ces choses qui rendraient toute liaison pénible le sont doublement dans notre carrière respective. Les mêmes opinions nous dominent, mais comme ces opinions sont placées sur deux caractères différents, nous nous nuisons au lieu de nous soutenir. Je puis me taire sous le despotisme, mais je ne veux pas me réconcilier avec lui. Elle voudrait se réconcilier, mais elle ne peut se taire. D'ailleurs, je le répète, il me faut une femme que je tienne dans mes bras, qui marque chaque nuit par le plaisir, chaque jour par sa douceur. Si je veux conserver Germaine, il me faut prendre une maîtresse obscure et subalterne, que sa subalternité irritera, que l'éducation n'aura pas adouci, qui me fera rougir si on l'aperçoit, qui pèsera sur moi si je la cache. Tous ces inconvénients grandiront avec l'âge, et je serai dans 10 ans ou isolé, si j'ai répudié cet être inférieur exigeant, ou si je l'ai conservé auprès de moi, dominé, trompé, malheureux. Je veux me marier. Cela seul peut combiner avec les avantages que je désire le moins possible d'inconvénients. Marié subitement, je pourrai reconquérir l'amitié de Germaine et il ne sera plus question de lien ni d'amour. Marié à Genève, j'y aurai un asile naturel. Mon mariage effacera le souvenir d'un divorce qui devrait me faire honneur car j'y étais délicat, humain, généreux, mais qu'on peut facilement mal représenter. Peut-être m'en repentirai-je, mais suis-je heureux. Toujours poursuivi de reproches, toujours en vue par la situation de Germaine et ne tenant jamais en main le gouvernail de ma vie. À 21 ans, je n'ai pas su dominer une femme. C'est que j'avais mal commencé. Je le serais aujourd'hui. Si je suis déçu dans mes espérances, ma vie du moins sera régulière, assise, reposée. Je verrai seul et sans cette influence que de longs souvenirs rendent impossible à détruire, quels sont mes moyens, mes ressources, quelle est surtout ma volonté. Alors je saurai ce qui me reste à faire, et pour la liberté, et pour ma gloire. Et je ne serai plus ni affaibli par les imprudences politiques de Germaine, ni tiraillé par une exigence qui trouble ma tête et bouleverse mes plans. Elle-même s'en trouvera mieux. Elle ne sera plus responsable d'une opinion moins affichée, mais plus inébranlable que la sienne. Il faut me marier, mais avec qui?
C'est très joli.
Je vois que la fin est très... C'est une scène de comédie,
c'est
évidemment,
une scène
un peu.
Comédie. La page est très jolie. La page est très jolie.
Il semble aller très loin dans le cynisme, parce que ce que je crois justement, c'est qu'il ne s'en vante pas, en tout cas, il n'est pas très fier de son cynisme.
Non.
Puis était-ce vraiment du cynisme? Enfin, parlant à lui-même, oui. Est-ce que cela empêche, à l'arrière-plan, que ses sentiments soient très sincères? Et est-ce que n'importe quel sentiment, si on les réduit à un schéma rationaliste, ne deviennent pas tous cyniques?
Oui, oui, je le crois aussi, c'est ça, parce qu'il pourrait très bien, un autre, un romantique précisément, ceux que nous prenons pour des romantiques en France, du moins, des gens comme Victor Hugo, s'empresseraient de montrer leur amour pour Amélie, pour celle justement dont il va parler bientôt et qu'il va épouser, et ne montrerait pas la charpente des sentiments. Lui, il la montre, mais où il paraît cynique, c'est quand même quand il fait des prévisions. Il fait vraiment des prévisions à 10 ans de distance, il semble dire, je vais m'enfermer avec quelqu'un, elle aura vieilli dans 10 ans, elle sera plus jolie.
Oui,
il est plein de sagesse. Mais comme en même temps nous savons qu'il était fou, ça ne nous paraît pas être uniquement la sagesse bourgeoise et prudente.
Oui, mais comment on sait qu'il se trompait aussi dans ses prévisions, n'est-ce pas? Ça atténue tout ça. Enfin, on...
Ce qui est curieux, c'est, je pensais à cela en écoutant la lecture de cette page, c'est la façon dont Benjamin Constant, évidemment il est franc, il est sincère, il est presque cynique, mais la façon dont il veut avoir raison, dont il veut se justifier. Et je parlais tout à l'heure de Casanova, je me rappelle un épisode de Casanova, il vient de raconter comment il est, je crois, dans une partie de promenade ou bien l'opéra, entre deux femmes, il raconte ce qu'il leur fait, n'est-ce pas, les avances, les approches, et il s'interrompt dans cette description très libre pour dire « Parents, c'est à vous que je m'adresse, je vais vous montrer qu'il ne faut pas laisser vos filles » etc., etc., n'est-ce pas? Et ce souci de se justifier, je le trouve très souvent chez Benjamin Constant, je me demande jusqu'à quel point il n'y a pas de l'humour en lui, jusqu'à quel point il ne sourit pas, n'est-ce pas, en donnant, il ne se donne pas la comédie d'une façon volontaire. Ça apparaît très bien, encore plus nettement que dans le journal, dans le récit qui a été publié il y a 2 ans, dans Cécile, n'est-ce pas? Là, certainement, c'est une comédie douloureuse, peut-être, mais ça
précise. Oui, je crois que vous prononcez un mot très important, comédien, puisque, après tout, c'est le thème du débat en ce qui concerne Constant.
Oui.
On a pu lui reprocher d'être comédien, et il en jouait beaucoup. On sait que pour séduire Madame de Staël, il a fait un suicide.
Oui.
Elle est entrée dans sa chambre et.
Ah, mais il avait l'habitude. Rappelez-vous, dans le Cahier Rouge, n'est-ce pas? Dans les carnets d'adolescence, les souvenirs d'adolescence, il veut aussi se tuer, il est sûr, et puis après, il échappe naturellement aussi à la mort, et il va à l'opéra et tout.
Et puis c'était une sorte, n'oublions pas, c'était une sorte de grand théâtre ambulant que transportait Madame de Staël avec elle, et qu'elle-même était familière de ce genre de choses. Alors on peut se demander en effet si ces scènes de comédie, il ne les écrit pas comme il les vivait un petit peu.
Oui, avec évidemment quelque chose d'un peu navré. J'ai pensé aussi...
Le ton navré, oui, me paraît.
Tandis que je vous écoutais, j'ai pensé à un écrivain que je viens de relire, et qui est Drieu La Rochelle. Drieu La Rochelle aussi avait la hantise du mariage, n'est-ce pas? Toutes les femmes dont il était un peu épris, eh bien, il voulait les épouser, n'est-ce pas? Il raconte ça dans la plupart de ses romans, à commencer par, comment s'appelle, Drôle de Voyage, dans Gilles, etc. Et il y a un peu cette comédie qu'il se donne, et tout de même, cette amertume.
Entre Drieu et Benjamin Constant, il y a certainement beaucoup de rapports.
Je crois.
Les mêmes ambitions politiques assez confuses.
Oui. Oui.
Le même hantise du mariage, en effet, le même besoin des femmes.
Oui, pardon, je crois malgré tout que Benjamin, qui était accusé d'inconstance, était à travers son inconstance, comme il disait lui-même, beaucoup plus constant, plus fidèle à une pensée profonde que Drieu.
C'est-à-dire que c'était un théoricien, alors que Drieu se voulait un théoricien, ce qu'il n'était certainement pas. Il a observé beaucoup de choses, il avait senti des choses, mais il était beaucoup moins un constructeur de système que Constant. Et puis Drieu était moins arriviste que Constant. Constant, de toute façon, n'a pas hésité à sacrifier un certain nombre de ses idées pour occuper le devant de la scène. Il est vrai qu'il avait été exilé 15 ans, tenu à l'écart des affaires très longtemps, après un départ brillant.
Est-ce que Constant, vous le considérez comme un arriviste?
Il y a des moments, le mot est un peu gros, mais il y a des moments même qui font penser. Je pense aux condamnations. Moi, je le vois un peu quelquefois, je l'aime beaucoup plus que Joseph de Maistre, mais à travers les yeux de Joseph de Maistre, qu'il avait vu arriver comme un jeune arriviste tout fringant. Et on a l'impression, sous le directoire, qu'il était un petit peu ça.
C'est justement, je pensais à cette époque-là. Rappelez-vous, dans les mémoires de Barras, Barras Lepin, il vient de, je crois que c'est Madame de Staël qui l'a conduit chez Barras, c'est pas en mettant Talleyrand. Et Barras le tient, qui a fait près de ceci, il avait cet air candide et sot des jeunes penseurs.
Aux yeux de Barras, peut-être.
Aux yeux de Barras,
mais, aux yeux de Barras, il était vertueux, mais vous n'avez que des lectures débauchées. Vous me disiez que Casanova est Barras.
Non, je vais voir entre Pascal et Fénelon. Encore un autre souvenir. Quand Madame de Staël va imposer, je crois à Barras lui-même, la nomination à un ministère de Talleyrand, elle est venue le matin, là, elle l'assiège, je crois que c'est Barras lui-même, elle assiège Barras et finalement elle décroche le ministère pour s'en protéger Talleyrand. Et alors, ils reviennent en voiture, Madame de Staël, Benjamin et Talleyrand. Et pendant tout le trajet, je crois que Talleyrand pose la main sur le genou de Benjamin Constant et ne cesse de répéter « Nous sommes dans la place ». Il faut y faire une fortune immense.
Oui, je connais.
Nous sommes dans la place, etc. Et je crois que ça, c'est une leçon qui pourrait dégoûter un garçon intelligent de l'arrivisme. Il semble que
ces manifestations.
Benjamin était au moins aussi contre lui-même, contre son destin, au moins autant qu'il l'appelait, n'est-ce pas?
Oui, probablement.
On va publier de nouveau des inédits de Benjamin Constant. C'est Alfred Roulin, vous savez, oui, qui avait retrouvé déjà beaucoup d'inédits dans le journal, et Cécile, qui publie des nouvelles lettres à Rosalie. Je crois qu'il y a une centaine de lettres inédites. Ou précisément, dans une de ces lettres, on trouve Benjamin comme ici, moins aigu. Mais posant la question du mariage, il hésite entre deux femmes qu'il vient de rencontrer, deux jeunes filles qu'il vient de rencontrer à Lausanne. Et alors il dit, bon, avec l'une, elle n'est pas belle, mais elle est tranquille, mais elle est sage. Avec l'autre, elle est plus jolie, mais, etc. Il pèse. L'épouseur du genre humain. Ou le déserteur, celui du mariage. Car il se lasse assez vite, n'est-ce pas? Rappelez-vous, dans le journal intime, c'est presque instantané. Il y a un moment, n'est-ce pas, il vient de voir... Ben, je crois que c'est Charlotte. C'est quand Charlotte devient sa maîtresse avant d'être sa femme, n'est-ce pas? Enfin, c'est joie, pleurs de joie. Et le lendemain, mais que se passe-t-il? Non, pas le lendemain, mais deux ou trois jours plus tard. Que se passe-t-il? Je commence à me lasser, n'est-ce pas? C'est assez triste. Est-ce que vous avez trouvé, Jacques Brenner, un texte qui puisse... s'apparenter à celui-là, ou le prolonger,
oui,
ou le commenter?
C'est surtout au point de vue du style et du ton que j'ai pensé à Mérimée. D'ailleurs, Mérimée, lorsqu'il s'occupe de psychologie amoureuse, il arrive qu'il rappelle Constant. Dans le vase étrusque, où l'on donne des leçons de séduction, on reprend cette anecdote que vous citiez tout à l'heure, cette façon de se suicider pour attirer l'attention des femmes sensibles.
Ah oui.
D'ailleurs, dans Mérimée, ce que j'ai choisi, c'est une page de la double méprise,
oui,
parce qu'il me semble que dans le personnage de Darcy, c'est lui-même Mérimée qui se peint, et Mérimée passe pour un cœur insensible, lui aussi très souvent. Et dans la double méprise, on s'aperçoit que ça pouvait être très bien une parade. D'ailleurs, de ce point de vue, ce qui est significatif, la double méprise apparut en 1833,
oui,
et se terminait, les amants étant séparés, quelqu'un disait au jeune homme « Quel dommage que vous fussiez trop pauvre pour elle quand elle s'est mariée. » Darcy sourit de ce sourire ironique qui lui était habituel, mais il ne répondit à rien. Or, 20 ans plus tard, corrigeant son livre,
oui,
et à ce moment-là, on pouvait penser que Darcy, effectivement, avait le cœur un peu sec, il ajoute ceci, Mérimée, « Ces deux cœurs qui se méconnurent étaient peut-être faits l'un pour l'autre. » Qui est quand même une note... qui relève d'une toute autre psychologie que le sourire ironique et le silence de la première personne.
Ah, c'est encore plus cruel, alors. C'est une ironie encore plus cruelle, peut-être. Ils étaient faits d'un peu autre, ils ne le savaient pas. Ils sont passés les petits hasards de la vie. C'est l'ironie de Thomas Hardy, n'est-ce pas, non?
Oui, mais qui est très cruel, justement.
Très
cruel, et
oui,
on pense qu'il avait pu en souffrir.
Oui.
Et alors, dans le portrait de Darcy, je vous rappelle, en gros, la double méprise, c'est une femme qui est déçue par son mari. Et elle ne renonce pas pour autant à l'amour. Et s'imagine... être enlevée par quelqu'un qu'elle aimerait, et elle pense à un jeune homme qui autrefois l'aimait. Et comme elle pense beaucoup à ce jeune homme, elle s'imagine qu'il est toujours amoureux d'elle, parce qu'en effet, il est très difficile, quand on aime quelqu'un, de s'imaginer que cette personne ne pense pas du tout à vous.
Oh, voilà une belle pensée. Je vais la noter, Jacques, si vous permettez.
Non,
pour mon carnet intime.
Vous ne croyez pas que c'est vrai?
Ça, je vous rapporte à vous.
Et alors, voici la page. Darcy était autrefois dans la société de Madame de Lussan un être sans conséquence, c'est-à-dire que l'on savait, les mères savaient, que sa fortune ne lui permettait pas de songer à leur fille. Pour elle, il n'avait rien en lui qui pût faire tourner leur jeune tête. D'ailleurs, il avait la réputation d'un galant homme, un peu misanthrope et caustique. Il se plaisait beaucoup, seul homme au milieu d'un cercle de demoiselles, à se moquer des ridicules et des prétentions des autres jeunes gens. Lorsqu'il parlait bas à une demoiselle, les mères ne s'alarmaient pas, car leur fille riait tout haut. Et les mères de celles qui avaient de belles dents disaient même que M. Darcy était fort aimable. Une conformité de goût et une crainte réciproque de leur talent de médire avaient rapproché Julie et Darcy. Après quelques escarmouches, ils avaient fait un traité de paix, une alliance offensive et défensive. Ils se ménageaient mutuellement et ils étaient toujours unis pour faire les honneurs de leur connaissance. Un soir, on avait prié Julie de chanter je ne sais quel morceau. Elle avait une belle voix et elle le savait. En s'approchant du piano, elle regarda les femmes d'un air un peu fier avant de chanter et comme si elle voulait les défier. Or, ce soir-là, quelque indisposition ou une fatalité malheureuse la privait de presque tous ses moyens. La première note qui sortit de ce gosier ordinairement si mélodieux se trouva décidément fausse. Julie se troubla, chanta tout de travers, manqua tous les traits, bref, le fiasco fut éclatant. Tout effarée, près de fondre en larmes, la pauvre Julie quitta le piano et, en retournant à sa place, elle ne put s'empêcher de regarder la joie maligne que cachaient mal ses compagnes en voyant humilier son orgueil. Les hommes même semblaient comprimer avec peine un sourire moqueur. Elle baissa les yeux de honte et de colère et fut quelque temps sans oser les lever. Lorsqu'elle releva la tête, la première figure amie qu'elle aperçut fut celle de Darcy. Il était pâle et ses yeux roulaient des larmes. Il paraissait plus touché de sa mésaventure qu'elle ne l'était elle-même. « Il m'aime, » pensa-t-elle. « Il m'aime véritablement. » La nuit, elle ne dormit guère, et la figure triste de Darcy était toujours devant ses yeux. Pendant 2 jours, elle ne songea qu'à lui et à la passion secrète qu'il devait nourrir pour elle. Le roman avançait déjà lorsque Madame de Lussan trouva chez elle une carte de M. Darcy avec ses 3 lettres « PPC ». « Où va donc M. Darcy ?» demanda Julie à un jeune homme qui le connaissait. « Où il va ? Ne le savez-vous pas, à Constantinople, il part cette nuit en courrier. »« Il ne m'aime donc pas, » pensa-t-elle. 8 jours après, Darcy était oublié. De son côté, Darcy, qui était alors assez romanesque, fut 8 mois sans oublier Julie. Pour excuser celle-ci et expliquer la prodigieuse différence de Constance, il faut réfléchir que Darcy vivait au milieu des barbares, tandis que Julie était à Paris, entourée d'hommages et de plaisirs. Quoi qu'il en soit, 6 ou 7 ans après leur séparation, Julie, dans sa voiture, sur la route de P, se rappelait l'expression mélancolique de Darcy le jour où elle chanta si mal. Et s'il faut l'avouer, elle pensa à l'amour probable qu'il avait alors pour elle, et peut-être bien même au sentiment qu'il pouvait conserver encore. Tout cela l'occupa assez vivement pendant 1/2 lieue. Ensuite, M. Darcy fut oublié pour la 3e fois. Et alors, il se passe, n'est-ce pas, qu'après cela, elle se persuade vraiment tout à fait que Darcy est amoureux d'elle. Et vous vous rappelez comment la chose finit tragiquement, puisque lui, la revoyant et voyant qu'elle s'intéresse à lui, se dit, elle, ce sera agréable de la fréquenter un été. Et quand elle s'aperçoit que c'est vraiment un été, alors qu'elle avait pensé finir sa vie avec lui, elle en meurt. Enfin, elle meurt de saisissement, comme on meurt par ailleurs dans les romans que dans ceux d'Henry James, où on meurt comme ça. Et alors, il me semble là qu'entre la forme un peu sèche de la comédie sentimentale qui racontait et la tristesse profonde d'une telle comédie, il y a un hiatus, mais qui est le charme de Mérimée, qui est un esprit beaucoup plus complexe qu'on ne le fait d'ordinaire.
Certainement, je crois aussi, oui.
Et il me semble que cette sécheresse du style l'apparente un peu à Constant.
Oui, il semble aussi que les événements qu'il raconte soient moins larmoyants. Au fond, c'est un mot qu'on n'a pas prononcé à propos de Constant, mais qui était nécessaire, c'est que tout se passait dans un déluge de larmes, qu'il y avait tant de scènes qu'il était forcé de faire le bilan le soir, comme un commerçant qui met doigt et avoir. Il fallait probablement qu'il compte les torts et les raisons, c'est un peu ce qu'il fait dans son journal.
C'est ça, mais le journal n'est pas larmoyant.
C'est ça, le journal n'est pas larmoyant parce qu'un livre de contes ne l'est pas, et parce que justement, ça ne servait qu'à ça. S'il s'était agi de consigner uniquement toutes les scènes qu'avait faites Madame de Staël, il n'en aurait pas fini, c'était vraiment un résumé, un bilan, pour savoir où on en était. Ça avait presque un but pratique, peut-être.
Oui, non, mais je crois que c'est important, ça, le fait qu'il raconte des scènes larmoyantes et que lui n'est jamais larmoyant. Et d'ailleurs, regardez dans Mérimée, là, vous voyez tout à l'heure, on voit Darcy également, enfin, avec des yeux pleins de larmes. Seulement, lorsqu'on note la chose, on n'essaie pas d'être larmoyant, comme pouvait l'être Rousseau.
Qui, oui, lui, quand et puis Constant ne devait pas hésiter à pleurer, mais n'oublions pas que Mérimée n'aurait jamais pleuré, puisqu'il faisait peur à Stendhal lui-même sur ce chapitre.
Oui, et bien d'ailleurs, Stendhal est également quelqu'un dont on a parlé de la sécheresse de Stendhal, n'est-ce pas ? Alors que lui aussi est très romantique.
Oui, c'est à Stendhal que j'ai songé, bien entendu, et aux journaux de Stendhal. Mais pour revenir à Constante, même ça m'inquiète un peu. Est-ce que le journal est si sec que vous le prétendez ? Il y a malgré tout de temps en temps...
Ah, il y a des instants d'effusion, oui, oui.
Quelques instants d'effusion et même quelques cris assez déchirants, quelques cris de fatigue, j'en ai assez. Il y a 2 ou 3 cris, je me rappelle, même de la première version du journal, qui m'avait très ému. Très
oui, mais il n'y a pas de complaisance, enfin, dans l'expression
il y a aucune
de ces cris,
c'est ça. Non, 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 en effet. Non, les développements ne soient sur un thème sentimental, Benjamin les a réservés à son roman. Il y a tout de même dans Adolphe certains passages, certains débuts de chapitres qui sont tout de même de grands développements romantiques sur l'idée de passion, sur l'idée de bonheur, d'amour, etc. Voici, j'ai simplement ouvert au hasard le journal de Stendhal. Je prends ici, j'ai devant mes yeux le deuxième tome, c'est quand il est à Milan, à l'année 1811, c'est-à-dire quand il fréquente chez Madame, la comtesse Simonetta. Je monte chez elle, mais plus de douce émotion, plus de tendresse. C'est 2 heures auparavant qu'il fallait me voir. Elle était seule, pour peu qu'elle eût pris le genre plaisant, ma déclaration mourait. Ce dont j'aurais eu ce soir une humeur de dogue, je lui ai dit, avec l'accent de la raison froide, que j'étais amoureux d'elle, que c'était pour ne pas m'exposer à aimer tout seul, que je ne l'avais pas vue hier. Elle m'a dit, à peu près, que je plaisantais. Et comme je lui donnais l'assurance du contraire, avec bonne foi, elle a dit, je voudrais bien que ce fût vrai. Tout notre colloque a été diablement raisonnable dans les intonations et les physionomies. Mais comme les Français ont beaucoup plus de vivacité dans le discours que les Italiens, à ce moment-là en tout cas, n'est-ce pas ? Peut-être ce ton froid lui aura-t-il échappé. Elle m'a dit tout de suite qu'elle aussi avait eu beaucoup d'humeur hier, quand à 4 heures elle avait vu que je ne venais pas, que pour me punir elle était sortie aujourd'hui. Là-dessus j'ai dit de fort bonnes choses, mais suivant moi, avec un air trop froid. Elle m'a tutoyé, elle a pleuré. Elle redoublait de tendresse quand je lui rappelais des traits de mon ancienne passion. Il paraît que ce souvenir que j'ai conservé si longtemps de 1000 petites choses lui a paru remarquable. Je n'ose dire qu'il l'a touchée. Comme je voulais l'embrasser, elle m'a dit « recevoir et ne jamais prendre ». Je trouve cette maxime très convenable à mon caractère, dans lequel la force nécessaire pour l'exécution tue le sentiment. Je n'ai donc pas ravi de baiser, mais bientôt j'en ai reçu. La tendresse revenait à mesure que je n'avais plus besoin du pouvoir exécutif. Je me sentais animé et si le tête-à-tête eût continué longtemps, j'aurais terminé. Elle a pleuré, nous nous sommes embrassés, tutoyés, continuant de sa part. Nous avons discuté à fond l'histoire de mon départ. Elle m'a répété plusieurs fois avec une voix très émue. « Pars, pars, je sens qu'il faut que tu partes pour ma tranquillité. Demain peut-être, je n'aurai plus le courage de te le dire. » Comme je lui disais que je serais trop malheureux pendant ce voyage, « Mais, dit-elle, tu auras la certitude d'être aimé. » Et elle a dit, avec l'air assez convaincu, en parlant des rapports que nous avons ensemble, « Mais c'est un roman. » Voilà qui fait la liaison, n'est-ce pas, entre le journal et le roman. On peut retrouver, je ne sais pas, des centaines de pages comme ça dans les journaux
de Stendhal. Ce qui est curieux, là, c'est qu'il ne dit pas ses sentiments, n'est-ce pas, dans ce qu'il éprouve. Il dit ce qu'il fait. Il note. Enfin.
Oui, c'est ça. Stendhal cherchait beaucoup à se voir, non, il me semble. Son rêve, c'était de se voir, c'est-à-dire comment étais-je en réalité. Il répète souvent, j'étais fort bien, je crois que j'étais fort bien, j'ai eu un air très froid. Il se voulait comme un comédien, cet homme qui, justement, avait grand mal à se maîtriser.
C'est ça, tout ça, c'est des gens qui s'observent, et c'est pour ça, quand on s'observe, on paraît toujours...
Mais ça semble être aussi un journal pratique, c'est-à-dire, pour Stendhal, un bilan, un programme de vie, on sait qu'il en faisait beaucoup, et c'est utile.
Oui.
Et vous voyez que c'est la vraie définition, la grande définition des journaux, des mémoires. Autrefois, les mémoires étaient justificatifs. Le Canada Ray écrivait ses mémoires comme tout le monde pour expliquer son attitude politique. Ça avait donc un sens.
Ah, pardon. Il y a des pages dans le Canada Ray, c'était les plus belles, les plus cyniques d'ailleurs, où il ne s'agit plus d'explication.
Parce que c'était un romancier, évidemment. Il est dépassé par son sujet. Mais le vrai but des mémoires est tout de même. Et puis, ils se vendent beaucoup aussi. Ils faussent les choses quelquefois. Et autrement, les journaux, qui sont aussi des journaux pratiques, dans lesquels on fait le bilan, on dit « j'ai fait ceci, j'ai fait cela, dans 10 ans, il faudrait que j'ai ceci, etc. » Et les autres formes de confession me paraissent beaucoup moins sincères, beaucoup moins vraies, beaucoup moins touchantes.
Ça ne va pas jusqu'à la confession, ça va plus loin que la confession, mais ça, chez Retz, lorsqu'il parle justement de son hypocrisie, en tant que, comme de la religion, que prêtre, n'est-ce pas ?
Quand il dit « j'ai décidé de faire le mal sciemment »,
ça n'est pas, oui, ce n'est peut-être pas la confession parce que ce n'était pas ça la confession, bien entendu. Mais enfin, c'est autre chose que la justification.
Oui.
Lorsque chez Saint-Simon, n'est-ce pas, Saint-Simon nous raconte la manière dont il a demandé la main de la fille du ministre, n'est-ce pas, de Louis XIV. Cette scène extraordinairement plaisante, on lui refuse, il dit « Mais je vous aime tant, monseigneur, que alors donnez-moi, mais... donnez-moi la cadette, enfin la suivante. » C'est très étonnant. Or, ce n'est pas pour se justifier. Il semble que là, il soit saisi de la folie de se raconter, d'expliquer. Ça arrive rarement, mais c'est vrai, tout Noël.
En ce qui concerne mémoire et journaux, il y a également le recul dans les mémoires, évidemment. Et pour le journal, c'est le fait brut et actuel, oui. Qui n'est pas déformé par le souvenir, qui déforme toujours.
Et oui, puis, c'est intéressant, oui, il faut noter ça, bien entendu, c'est très important.
Il y a la question de l'âge de celui qui tient le journal, n'est-ce pas ? Là, c'est en somme le jeune Stendhal, dans la page que vous avez lue.
Bien sûr. Je me demande si le recul qui est apporté, c'est-à-dire l'homme qui ne raconte pas au jour le jour, n'est-ce pas, dans son journal, mais qui, dans le souvenir, 2 ans plus tard, 10 ans plus tard, n'est-ce pas, rapporte un événement, une passion. Je me demande si parfois il n'atteint pas une vérité plus grande.
Il y met quelquefois plus de fraîcheur.
Mais parfois plus de fraîcheur. Oui. En somme, lorsque la religieuse portugaise écrit ses fameuses lettres, il y a évidemment la douleur immédiate. Mais quand elle raconte ce qui s'est passé 1 an, 2 ans auparavant, c'est là peut-être qu'elle est supérieure.
Ah oui, il se passe bien entendu que les conséquences, les suites d'une rencontre peuvent être aussi importantes que la rencontre même. Je veux dire les prolongements qu'a en un individu. Enfin, l'émotion première, c'est une émotion qui se transforme, et toutes les transformations de cette émotion sont aussi intéressantes.
Oui, nous sommes tous un peu romanciers, nous allons plaider la cause du roman, bien entendu, contre la réalité immédiate. Mais c'est vrai, pour Stendhal, je crois en effet, Roger Nimier, je crois, comme vous le disiez tout à l'heure, que le journal, pour Stendhal, c'est une manière de s'étudier, mais d'une façon pratique.
Pour progresser, il était en progrès de sa vie, n'oublions pas qu'il apprenait les choses, qu'il lisait, il y a beaucoup revenu là-dessus, il apprenait les auteurs anglais, il les lisait, il voulait apprendre à comment faire une comédie. Oui. Donc, il était en classe, ce sont ses cahiers de classe. Et ce que je crois, ce qui est dommage, c'est que les journaux, les mémoires...
Avec les corrections, d'ailleurs, des devoirs.
Avec les corrections.
N'est-ce pas, que donne la réalité. Car il dit, demain, je vois telle personne, je serai comme ceci, comme cela. Je ne parlerai pas, je ferai un aveu de ton froid et tout. Et le lendemain, il raconte, oui, j'ai eu raison de faire ça, j'ai eu tort, etc.
Exactement.
Et ça recommence.
C'est une méthode intime d'amélioration. Ouais. Je crois que ce qui est dommage, c'est que les journaux, les mémoires soient devenus un genre littéraire, comme le roman.
Oui. On ne les écrit plus pour soi.
On ne les écrit plus pour soi, on n'était plus dans un but pratique.
Oui, mais écoutez, je me demande...
C'est comme si on écrivait des lettres, vous me direz qu'on l'a beaucoup fait, évidemment, elles sont excellentes, mais enfin, en vue de la publication uniquement, et tout de même, je ne crois pas que ça s'est beaucoup fait, mais les meilleurs ne sont pas comme ça. Les lettres de Madame de Sévigné, c'était tout de même dessiné aussi à quelqu'un.
Et vous, Marcel Bizot, vous avez trouvé des textes
j'ai
qui
pensé
sont,
à une page qui n'est pas exactement une page de stratégie amoureuse, c'est plutôt l'inverse. C'est une page du journal de Tolstoï, dans lequel il a recueilli une lettre qu'il écrivait à sa femme, et c'est une sorte de lettre de rupture, dans laquelle il fait un peu le bilan de la vie passée et de ses rapports avec sa femme. Si bien que c'est un regard sur son ancienne stratégie amoureuse, si on veut. C'est une lettre du 14 juillet 1910, de Tolstoï à sa femme. « Premièrement, je ne donnerai à personne le journal actuel et le garderai chez moi. C'est parce que entre eux, enfin ils sont séparés depuis quelque temps, et entre eux il y a un problème, c'est l'histoire de leur journal. Chacun tient son journal, et ils sont l'un et l'autre inquiets de ce que l'autre...
C'est déjà la famille Jouando.
Peut-être. Enfin c'est surtout Sophie Tolstoï qui est inquiète de ce que peut dire Tolstoï d'elle, dans son journal. Alors, deuxièmement, je reprendrai chez Tcherkov, enfin les anciens cahiers de mon journal, et je vais les garder moi-même. Troisièmement, si tu es inquiète à la pensée que des biographes futurs, hostiles à ton égard, pourront tirer parti des passages des cahiers de mon journal, où j'ai écrit sous l'impression momentanée de nos désaccords et de nos heurts, songe que ces expressions de sentiments passagers, dans mon journal comme aussi dans le tien, ne sauraient donner une idée exacte de nos véritables rapports. Mais si tu crains que l'on ne s'y trompe, je suis heureux de l'occasion qui m'est donnée d'exprimer dans mon journal, ou tout simplement dans une lettre, mes sentiments à ton égard et le jugement que je porte sur ta vie. Mes sentiments à ton égard et mon jugement sont ceux-ci. Tout comme je t'aimais dans la jeunesse, je n'ai pas cessé de t'aimer malgré divers motifs de refroidissement, et je t'aime. Ces motifs de refroidissement étaient, sans parler de la cessation des relations conjugales qui n'a pu que supprimer l'expression trompeuse d'un amour superficiel, ces motifs étaient, premièrement, mon éloignement de plus en plus profond de tous les intérêts du monde et mon aversion à leur égard, alors que tu n'as pas voulu renoncer à eux, n'ayant pas accueilli dans ton esprit les principes qui m'ont conduit à mes convictions, ce qui était très naturel et que je ne peux te reprocher. Cela tout d'abord. Mais en second lieu, pardonne-moi si ce que je te dis t'est désagréable, mais ce qui se produit maintenant entre nous est si grave qu'il ne faut pas craindre de dire ni d'entendre toute la vérité, c'est ton caractère qui est devenu pendant les dernières années de plus en plus irascible, despotique et sans retenue. Ces changements dans ton caractère ne pouvaient manquer de refroidir en moi, sinon le sentiment lui-même, du moins son expression. cela en second lieu. Troisièmement, la principale cause qui était fatale, celle dont la responsabilité n'incombe pas plus à moi qu'à toi, c'est que nous avons des vues tout à fait opposées sur le sens et le but de la vie. Tout était directement opposé dans notre conception de la vie. Le mode de vie, l'attitude envers les hommes, les moyens d'existence, la propriété, que j'ai considéré comme un péché, et toi comme la condition nécessaire de la vie. Pour ne pas me séparer de toi, je me suis soumise à un train de vie qui m'était pénible. Quant à toi, tu considérais cela comme des concessions à ta façon de voir, et le malentendu allait croissant entre nous. Il y avait aussi d'autres motifs de refroidissement, dont la faute nous incombait à tous deux, mais je ne vais pas en parler parce qu'ils n'ont rien à voir ici. Ce qu'il faut dire, c'est que malgré tous les malentendus qui ont eu lieu, je n'ai pas cessé de t'aimer et de t'apprécier. Quant à mon appréciation sur ta vie avec moi, la voici. Moi qui étais un homme débauché, sexuellement vieux et sorti de la première jeunesse, je t'ai épousé, toi, jeune fille de 18 ans, pure, bonne, intelligente, et malgré mon passé malpropre, tu as vécu presque 50 ans avec moi, en m'aimant, en menant une pénible vie de travail, en accouchant, en allaitant, en éduquant, en soignant les enfants et en me soignant, sans te laisser aller aux tentations qui auraient pu s'emparer si facilement de toute femme dans ta situation, forte, vigoureuse, belle. Mais tu as vécu de telle sorte que je n'ai pas un reproche à te faire, tu ne m'as pas suivi dans mon mouvement moral, mais je ne veux pas te le reprocher, et je ne te le reproche pas, parce que la vie morale de chaque être humain est un mystère entre lui et Dieu, et ce n'est pas aux autres hommes de lui montrer sur ce point aucune exigence. Si je l'ai exigé de toi, c'est que je me trompais, et que je suis en faute sur ce point. » Alors continue, enfin, un passage de cette description. J'aurais pu continuer à vivre ainsi si je pouvais supporter tranquillement tes souffrances, mais je ne le peux pas. Hier, tu es parti agité, tourmenté. Je voulais me coucher, dormir, je me suis mis à penser à toi, je n'ai pas dormi. J'ai écouté jusqu'à 1 heure, jusqu'à 2 heures, et je me réveillais de nouveau et j'écoutais. Et je te voyais en rêve, ou presque en rêve. Réfléchis calmement, cher ami, écoute ton cœur et tes sentiments. Ce que tu décideras sera bien. Quant à moi, je te dirai que de mon côté, j'ai décidé tout de même que je ne peux pas faire autrement. Cesse, ma chérie, de torturer non pas les autres, mais de te torturer toi-même. Toi-même, parce que tu souffres 100 fois plus que tout le monde, c'est tout. Le 14 juillet 1910 au matin. Alors ayant écrit cette lettre, Tolstoï la remit à sa femme, mais elle ne voulut pas la prendre. Quand Tolstoï essaya de la lui lire, elle ne l'écouta pas. Voilà ce qu'écrivait dans son journal Sophie Tolstoï, d'abord le même jour.
Ah
le,
oui,
le
c'est
14 juillet,
oui, nous allons voir les sentiments.
Le jour de la lettre de Tolstoï. 14 juillet. Je n'ai pas dormi de la nuit et mon suicide n'a tenu qu'à un fil. Si outrée que soit l'expression de mes souffrances, elle sera toujours au-dessous du vrai. Léon Nikolaïevitch est entré. Je lui ai dit, en proie à une terrible agitation, que de deux choses l'une, ou ses journaux allaient revenir, ou bien je quitterais la vie, à lui de choisir. Et il a choisi, grâce lui en soit rendue, et a rapporté les journaux de Tchetcherkov. Dans mon trouble, j'ai mal collé entre leurs pages la lettre qu'il m'avait apportée ce matin. Je le regrette beaucoup, mais elle est reproduite plusieurs fois, entre autres dans le registre des lettres de Léon Nikolaïevitch, qui me sont adressées, recopiées par moi, et dont il y a un exemplaire chez ma fille Tania.
Il s'intéresse beaucoup.
C'est un peu affolant, oui. Il s'intéresse un petit peu aussi à leur production.
Alors, on continue. Oui. Voici donc quelle est la fin de ma vie matrimoniale, si longue et jadis si heureuse. Mais ce n'est pas encore tout à fait la fin. La lettre que Léon Nikolaïevitch m'a adressée aujourd'hui est encore un lambeau de cette félicité d'autrefois, mais un lambeau tout petit et joliment usé.
Oui. Évidemment, c'est très difficile d'être la femme d'un grand écrivain déjà connu comme grand de son vivant. Et on se rend un peu trop qu'elle se sait, la femme de Tolstoï,
oui,
et
sûrement,
qu'elle l'écrit
oui.
pour se justifier, elle très nettement, oui. n'est-ce pas? Et Tolstoï aussi, sans doute, d'ailleurs.
Il est curieux de voir Tolstoï faire un exposé très rationaliste, enfin, il étudie la situation, voilà ce qui se passe, et après ça, il dit à sa femme, étudie ton cœur et tes sentiments.
Oui.
Alors quand c'est à sa raison, à la raison de sa femme qu'il en a.
Oui.
Et ça, ça rapprocherait, alors, puisque Nimier parlait d'abord des enfants de Rousseau, Tolstoï finirait lui aussi par être un enfant de Rousseau.
Probablement, oui.
Les enfants de Rousseau, entendant, enfin, la postérité de Rousseau, la postérité de l'analyse, de, c'est ça que vous entendiez,
oui,
du journal intime.
Oui, un peu.
Sénancour, sans doute aussi.
Sénancour,
est-ce
oui,
que vous avez lu un petit livre de...
De l'amour, de Sénancour.
Oui, son petit traité, c'est comme Stendhal, qui s'appelle De l'amour. Il est d'ailleurs un peu fou même, mais avec de très jolis passages.
Oui,
des choses
quelquefois un peu mièvre.
Un peu mièvre, oui. Un peu romantique, un petit peu... Un peu hurlu-berlu, certainement, avec des thèses sur l'amour très audacieuses. Oh, j'avais vu, ce qui était très amusant.
Est-ce que vous connaissez un livre de... C'est de Julien Bada, naturellement. C'est un de ses meilleurs livres qui s'appelle... Est-ce Dialogue d'Éleuthère ou est-ce Délices d'Éleuthère ?
Délices d'Éleuthère.
C'est là où il analyse, justement, il fait une analyse du sentiment de l'amour, de la passion amoureuse, qui est très nettement inspirée, en tout cas par la technique, par la méthode de Stendhal, n'est-ce pas ? Qui est développée avec beaucoup de scrupules, de concision, de fermeté, et qui prolonge sur certains points les théories de Stendhal. Je me rappelle, il y a des pages très amusantes. Il y a des pages notamment sur les sensations et sentiments d'une jeune fille à sa première, à la nuit de son mariage, n'est-ce pas ? Je ne sais pas du tout comment Julien Bada, quelque intelligent qu'il soit, était parvenu à se mettre dans, dans l'âme et dans le corps aussi un peu de la jeune fille en question, mais c'était surprenant, c'était criant de vérité. Quand j'ai lu ça, j'étais aussi très jeune, j'avais eu une très grande impression, n'est-ce pas, de Julien Bada. D'ailleurs, elle n'a fait que se confirmer depuis lors.
Mais malheureusement, tous ces traités de séduction sont devenus impossibles, puisqu'il n'y a plus de moralité, il n'y a plus de société, il n'y a plus de barrières, il n'y a plus rien. J'y pensais en lisant un petit livre très bon que Roger Vaillant vient de faire paraître sur La Clo.
Ah oui, le petit livre qui a paru chez Alozir Luceuil, n'est-ce pas,
oui,
dans la collection.
Et il reconnaît lui-même, justement, que le libertinage n'est plus possible, puisqu'il est presque officiel, au moins en ce qui concerne les grandes villes.
Il n'est plus possible pour les littérateurs, du moins.
Non, mais même de toute façon... Quand il n'y a plus de moralité, quand il n'y a plus de barrière, il n'y a plus non plus d'assaut.
Vous avez l'impression qu'il n'y a plus
de moralité,
non ?
J'en souffre, oui.
On m'a envoyé, un de mes amis m'a envoyé le manuscrit de son fils. Cet ami est poète. Ce manuscrit avait 15 ou 16 et 100 pages. Vous pensez bien que je ne l'ai pas lu. Mais j'ai reçu une lettre l'autre jour me disant que telle maison d'édition allait le prendre, alors je l'ai lu. Eh bien, il se propose comme une fresque de la jeunesse contemporaine. Et il dit précisément, comme vous le disiez tout à l'heure, qu'il n'y a plus de moralité. Cela se passe, il y a un garçon et ses amis qui sortent du collège, qui vont au Mailleux, au café Mailleux, n'est-ce pas ? Et avec deux ou trois filles là, ce sont des mots très obscènes, ce sont quelques situations, quelques parties de plaisir, quelques partouzes, etc., quelques gestes, quelques couchages, n'est-ce pas ? Mon Dieu, assez violent, assez véhément. Et il propose ça comme, n'est-ce pas, le tableau de l'époque, de la jeunesse de l'époque. Je crois que
là... Mais qu'est-ce que la morale a à voir là-dedans ?
Je crois que c'est littéraire.
Eh bien, justement, je crois qu'à Carpentras, ou à Langres, ou à Troyes, ou à Lille, je ne sais
pas
où,
c'est pas ça que je pensais pas à ça, je pensais plutôt aux préceptes en vigueur. Je crois que, justement, on n'enseigne plus de morale, et on enseignerait plutôt une immorale qu'une morale. Je veux dire que tout ça est à la mode, précisément. Tout ça est littéraire, tout ça est bien vu, si vous voulez. Il y a un sourire complice des parents, alors que... Ça n'aurait pas été le cas il y a 50 ans, pas partout naturellement, mais
oui.
Il y a une certaine tendance dans cette direction.
Certes, je crois aussi.
Les familles se désolent beaucoup plus à présent d'avoir un fils qui ne court pas les jupons que d'avoir un fils vertueux, il n'y a pas de question. Or, de là à ce que ça se transmette aux filles, ça ne tardera pas.
Vous croyez que ça a commencé déjà ?
Pour, en ce qui concerne les filles, oui. D'une autre façon, peut-être, si elles n'ont pas de succès, vous comprenez, ce n'est pas aussi net.
Oui.
C'est d'ailleurs très normal. À toute époque, on a préféré que ça ait eu du succès, mais maintenant, les limites sont devenues beaucoup moins nettes.
Et vous voyez une influence de cet état d'esprit, de cette transformation.
La littérature n'est qu'un symptôme, justement, la littérature et le succès de toutes sortes de livres scandaleux vient de ça, non ?
Oui.
Pareil. C'est révélateur, ça ne vient pas de la littérature, mais ça vient d'un manque d'ordre en général.
Un manque d'ordre en général.
Vous venez d'entendre le Club d'Éliseur, une émission de Marcel Arland, Marcel Biziot et Jacques Brenner, réalisée aujourd'hui avec la participation de Roger Nimier. C'était une production de Jacques Peuchemort.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur la chaîne nationale le 7 février 1954. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique « Les nuits de France Culture ».